things in life for free. But you can give them to the birds and bees. I want money.
Que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'Écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, on va vous parler évidemment de ce qui va se passer, on l'espère, demain. Mais avant, on voudrait vous parler un petit peu de la Turquie, de la Syrie, par rapport à ce qui s'est passé au niveau du séisme. On a un enregistrement qui peut être intéressant au niveau analyse, ce qui s'est passé, et puis aussi pourquoi il y a eu autant de morts, puisqu'on parle de 45 000 morts. Ouais. Il y en a peut-être plus.
Plus.
Voilà, donc...
Ouais, je pense que l'intérêt de ce qu'on va entendre, c'est la synthèse qui est faite et qui revient sur de nombreux aspects qui permettent d'expliquer, d'expliciter les circonstances à la fois de ce séisme, mais aussi les conséquences, puisque il faut toujours le dire, il n'y a pas de catastrophe naturelle. Les catastrophes naturelles, ça n'existe pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la nature n'est pas quelque chose d'extérieur à l'homme. L'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même, hein, selon une citation que vous connaissez peut-être d'Élisée Reclus. C'est-à-dire que la nature, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. L'homme vit avec la nature, vit avec les dangers de la nature, vit avec les conséquences de son habitat, vit avec la relation qu'il a avec la nature. Et de cette relation qu'il a avec la nature, il peut soit décider de minimiser les risques, soit de les maximaliser, soit de pas en prendre conscience, soit d'estimer qu'il est supérieur au risque de la nature et de créer, en tous les cas de favoriser, une organisation sociale, une organisation de sa société qui prend ou qui ne prend pas en compte évidemment les risques de la nature, en tous les cas, le fait de vivre dans un habitat naturel où on en est à la fois dépendant, mais aussi co-responsable, mais aussi dans lequel on vit. Pour ses bienfaits, bien sûr, mais aussi pour ses méfaits, parfois. Or, l'activité sismique, les séismes, les tremblements de terre et la Turquie, c'est une très 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 longue histoire. La plaque anatolienne sur laquelle est située la Turquie fait des siennes depuis l'histoire de la Turquie et depuis l'histoire de l'humanité, depuis que les Turcs habitent et peuplent cette Anatolie, ce qu'on appelle la Turquie. Le séisme du 6 février dernier, en l'occurrence, c'est le séisme le plus fort recensé sur la partie méridionale de cette faille est anatolienne, pour ceux qui se rappellent leur primaire, hein. Vous réviserez la Pangée, la tectonique des plaques et les failles, mais la faille est-anatolienne, c'est une des failles les plus importantes. C'est cette même partie donc de cette faille est-anatolienne qui avait déjà causé un tremblement de terre en 1822, Hein, donc c'est des choses qui restent dans la mémoire des hommes et des femmes. Et sur cette faille, le choc du 6 février a provoqué une rupture de 200 km de long, de 25 km de profondeur et un déplacement de la plaque anatolienne d'au moins 3 mètres. Au moins 3 mètres. Et donc avec les répliques du 20 février, la nuit, le séisme de la nuit du 6 février, le bilan dépasserait les 50 000 morts, avec évidemment tout ce qu'il va y avoir derrière, c'est-à-dire des résidus d'amiante, de plomb, de microplastiques, la pollution des gravats, la pollution des airs, avec des craintes d'une épidémie de choléra sur les fournitures en flotte, des choses qui découlent directement hein, de ces catastrophes. Et en fait, on se rend compte que 24 ans après le séisme d'Izmit près d'Istanbul, c'était en 1999, la Turquie ne semble pas du tout beaucoup mieux préparée au risque sismologique. Si les normes antisismiques adoptées à l'occasion de ce terrible séisme d'Izmit en 1999 n'ont pas du tout été respectées, une terrible colère sociale et populaire est en train de monter contre les prometteurs immobiliers qui n'ont pas respecté ces failles. Et surtout, et c'est ça qui est aussi important, c'est que le président Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP, qui est depuis 20 ans maintenant à la tête de l'État et encore auparavant à la mairie d'Istanbul, qui a fondé une partie de sa légitimité sur la nécessité et l'ambition de transformer et de rénover le clientélisme et la corruption inhérente à l'État turc et à l'administration turque et à la construction sociale turque, et aussi qui a fondé la croissance économique du pays sur le secteur du bâtiment avec des projets touristiques d'une part, mais aussi, on va l'entendre dans le son et l'interview qu'on va avoir, une politique de construction d'habitat dit social ou en tout cas de transformation des logements insalubres et des bidonvilles des périphéries des grandes villes comme Istanbul en logements collectifs qu'on va appeler social pour faire vite, même si c'est pas du tout ça, se retrouve confronté véritablement à son indigence, à l'échec de sa politique, à son baratin, à son clientélisme et à sa corruption complètement renouvelée. Et il faut espérer que cette énième catastrophe terrible, puisque visiblement il n'y a pas une famille turque ou kurde ou même immigrée, même en Turquie, qui n'a pas été touchée, qui ne connaît pas quelqu'un qui a été touché. Et qui s'assoit quelque part, ça sonne le glas de ce sinistre personnage Erdogan et de sa clique de l'AKP. Alors le séisme, c'est évidemment un phénomène tectonique. Je reviens sur ce que je disais, mais c'est pas une catastrophe naturelle dans le sens où la société qu'on choisit, la société qu'on promeuve et le capitalisme, évidemment, il s'en fout lui des risques sismiques et des risques technologiques tant qu'il peut faire du profit à court terme, que ce soit pour construire des cahutes ou pour construire des saloperies ou des hôtels, etc. Il y va, il continue. Ce qui l'intéresse, c'est à plus court terme, quel que soit le prix humain que ça coûte. Et évidemment, l'État dans le capitalisme, il sert pas à l'intérêt général, il sert pas à protéger les gens. Il sert d'abord comme instrument et d'outil à la clique, à la fraction de la bourgeoisie qui est au pouvoir. Et je crois que tout ce qui est dans cette catastrophe depuis un mois du tremblement de terre en Turquie démontre bien qu'est-ce que donnent certains types de sociétés face à certains types de risques. Et la seule chose dont on peut se réjouir quelque part, de voir que finalement les sociétés, elles peuvent aussi s'organiser pour le bon, c'est que la plupart de ceux qui ont été sauvés ont été aidés par les milliers et les milliers de personnes qui se sont spontanément rendues sur les lieux de la catastrophe pour pouvoir apporter leur secours, se substituant pour le coup à l'État défaillant, à l'État Erdogan et à l'État AKP. Et tant que il y aura des réactions de ce type-là dans ces moments-là, on saura et on sait et on pourra espérer à la fois que tout est possible en Turquie, que la société société turque, eh ben, elle existe encore, elle bouge encore, elle n'est pas complètement écrasée sous le talon de son sultan autoritaire, et que ben, finalement, face à l'adversité, il y a toujours des gens qui réagissent, et ça, quelque part, ça va nous donner du grain à moudre pour la seconde partie de notre émission, on verra bien. Mais je me tais par rapport à cette trop longue introduction. On va écouter Dorothée Schmidt, qui est responsable du programme Turquie à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors l'IFRI, c'est un machin qui sert à faire des emplois pour parler des experts. Non, je plaisante. L'IFRI, c'est l'Institut officiel des relations internationales depuis aujourd'hui 40 ans de para-étatique français. Donc faut toujours garder en tête ça. Mais l'intérêt, c'est que ce sont des gens qui ont du temps et des moyens et qui savent en général de quoi ils parlent. Et là, en l'occurrence, vous allez voir, on a choisi de vous passer ça parce que, bon, c'est une parole autorisée, bien sûr, mais c'est une parole qui est compétente et qui permet de vraiment synthétiser sur le fond ce qui s'est passé en Turquie et qui permet de tirer quelques lignes, de comprendre pourquoi on en arrive à cette catastrophe-là. On y va en espérant que ça marche du premier coup. À vous de jouer, à vous les studios. Ah non, ça, c'était prévu que ça ne marche pas du premier coup. Je l'avais annoncé. Voilà, c'est parti, à tout de suite.
Bonjour Dorothée Schmidt.
Bonjour.
Vous êtes donc chercheuse et responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI, donc l'Institut français des relations internationales. Avec vous aujourd'hui, on va donc revenir sur ce double séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier, qui a fait au moins donc 40 000 morts. C'était il y a 10 jours. Maintenant, on peut prendre un peu de recul pour analyser ce qui s'est passé, revenir sur la situation et imaginer les conséquences, surtout politiques, à venir pour la Turquie. Avant toute chose, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la zone qui a été touchée, ses spécificités sociales, religieuses et urbaines?
Alors d'abord, il faut rappeler que la Turquie est un pays qui est situé à 70 à 80% en zone sismique. Le sud-est de la Turquie, dans lequel a eu lieu ce tremblement de terre, pouvait être touché, mais en réalité, on attendait plutôt, on craignait en tout cas un très gros tremblement de terre à Istanbul. C'est en général le lieu où on craint que ça se passe, parce que le précédent, en 99, du grand tremblement de terre d'Izmit, était plus proche d'Istanbul, avait occasionné de très importantes destructions, aussi des destructions d'ordre économique, puisque c'est vraiment le poumon économique de la Turquie. Là, on est dans une région qui est plutôt une région un peu laissée pour compte, qui est une région où on trouve beaucoup de minorités, beaucoup de Kurdes qui ont fui l'est du pays pour se relocaliser à cause de la guerre civile entre les forces turques et le PKK, et aussi beaucoup de réfugiés syriens. Donc finalement, c'est une région qui est un peu moins développé que le reste de la Turquie, un peu perdu, à l'exclusion de la ville de Gaziantep, qui est une ville qui a subi de très importantes destructions et qui, elle, est une sorte de métropole économique au milieu de ce sud-est un peu perdu.
Donc on le disait, le bilan était catastrophique. Là, pour l'instant, on en est à 40 000 morts, ça risque de doubler. En termes de secours, est-ce qu'on peut revenir sur les premiers jours qui ont suivi le séisme? Quelle réponse a été apportée à la population victime de ce double séisme?
Très rapidement, on sent que les autorités turques ont été débordées. Alors évidemment, on peut relativiser ça en disant que l'ampleur absolument exceptionnelle de ce séisme explique la difficulté des secours. Par contraste, on a eu un mouvement de solidarité extrêmement fort immédiatement de la part de la population turque, avec des gens qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir sur place, pour porter aide aux sinistrés, pour essayer de sortir des gens des décombres et ensuite de les aider à survivre simplement, parce qu'on est vraiment, on est en hiver, un moment où les températures sont en dessous de 0 degré, il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, donc on est vraiment dans une situation d'urgence humanitaire absolue à très très grande échelle. 10 provinces de la Turquie ont été touchées, on considère que 15 à 20 millions de personnes sont concernées, en incluant la Syrie, qui a été moins touchée, puisque l'épicentre se trouve en Turquie. Donc on a ces autorités qui sont relativement débordées dans un premier temps, avec des explications qui sont que les infrastructures sont détruites, beaucoup d'aéroports sont détruits, des routes sont détruites, mais néanmoins, un problème immédiatement qui surgit, c'est qu'après ce tremblement de terre d'Izmit, dont je parlais tout à l'heure, on a mis sur pied une agence de gestion des catastrophes naturelles, l'AFAD, qui, pour le moment, semble ne pas être à la hauteur de l'enjeu.
Donc, pour l'instant, est-ce qu'on peut confirmer ce qui a été communiqué sur les réseaux sociaux les jours suivants, c'est qu'en fait, l'aide n'était pas suffisante?
La problématique, c'est effectivement que le gouvernement turc va dire que personne ne pouvait être préparé pour cette catastrophe, mais il y a un énorme défaut de la façon dont le gouvernement turc gère cette catastrophe, c'est l'hypercentralisation. C'est-à-dire que là, maintenant, les réseaux sociaux sont aussi pleins de retours du terrain qui nous disent que la FAD s'oppose, met des obstacles bureaucratiques au travail des secouristes étrangers ou turcs, qu'elle souhaite avoir des gains d'image et donc faire uniquement de jolies photos quand on arrive à trouver des sinistrés. Et donc, on a vraiment une insatisfaction extrêmement forte vis-à-vis de sa contribution.
C'est vraiment ça qui a choqué un peu le monde. Vraiment, les gens attendaient les secours pendant des jours.
Oui, il y a des zones où, effectivement, comme à Antioche, par exemple, dont on sait que la ville a été détruite à plus de 50%, sur place, les gens nous disent que pendant deux jours, ils n'ont vu personne, jusqu'à l'arrivée des secouristes étrangers.
Nombreux rescapés et proches de personnes sous les décombres ont dénoncé la lenteur des opérations de sauvetage et le manque de moyens.
Et comment s'est défendu le président Erdogan, à part l'argument de dire que c'est une catastrophe naturelle, on n'aurait pas pu le prévoir? Comment il a réagi, lui, face à cette première indignation?
D'abord, Erdogan, à mon sens, a eu vraiment un moment de suspens, de malaise, d'incapacité à réagir, que j'ai assez rarement vu dans ma vie. Il s'est rendu au bout de deux jours, alors il est parti au siège de la FAD à Ankara, il s'est rendu au bout de deux jours seulement sur place, et là il a commencé à faire un peu le tour des municipalités. Son allié au gouvernement, son allié de droite, Devlet Bahçeli, je crois, vient de se rendre simplement sur place également. Il n'y avait pas du tout été. Donc il y a vraiment un extrême malaise des gouvernants face à cette catastrophe. Et je pense qu'Erdogan a compris très vite que c'était quelque chose qui retournait totalement la situation politiquement, parce que le mécontentement a tout de suite été très fort, mais aussi parce que les conséquences économiques de cette catastrophe vont être énormes. La Turquie, elle est dans une période de crise économique, comme vous le savez. Donc Erdogan, assez rapidement, a pris le parti de dire « nous ne pouvons rien prévoir », assorti d'un discours un peu religieux qui était « bon, c'est la fatalité,
c'est
le destin, c'est la fatalité ». Et le deuxième volet, c'est « nous allons reconstruire très rapidement ». Donc là, ce qui est en jeu, c'est la réputation de l'AKP dans son efficacité, finalement, sur le terrain.
Il a mis du temps à réagir et après, il a quand même admis, il a reconnu les lacunes du gouvernement dans les réactions.
Il a dit on aurait pu faire mieux, mais en fait c'est très difficile de faire mieux, et puis voilà, on passe à autre chose parce que maintenant on est au travail. Le problème, c'est que de ce qui nous revient du terrain, les lacunes persistent en réalité. C'est-à-dire que ce défaut d'hypercentralisation et de bureaucratisation empêche l'agence d'être efficace, et ça se double d'une volonté autoritaire de tout contrôler. Comme vous le savez, un contrôle des réseaux sociaux qui a été un contrôle de Twitter qui a eu été mis en place le deuxième jour, parce que les leaders politiques commençaient à s'égosiller contre Erdogan. Le problème, c'est que les réseaux sociaux sont aussi le lieu où tout le monde s'exprimait pour demander de l'aide et où on pouvait travailler pour organiser les secours. J'ai vu la façon dont la solidarité s'organisait à partir d'Istanbul, avec effectivement tous les canaux de communication qui étaient mobilisés pour essayer d'envoyer des bénévoles. Et énormément de gens se sont déplacés sur les régions pour aider, tout à fait en parallèle des efforts du gouvernement, voire sans l'autorisation du gouvernement, voire contre l'autorisation du gouvernement.
Ça, c'était pour donc les réponses des secours locaux. Ensuite, pour les aides internationales, pour l'instant, quels pays ont proposé leur aide et leur soutien?
Le gouvernement turc a dit que 45 pays ont proposé leur aide. Donc c'est une aide massive, énorme, qui s'est très rapidement mise en branle, qui est venue vraiment de partout. De l'Union européenne, on a énormément de pays, alors que vous savez que les relations sont plutôt fraîches entre la Turquie et l'Union européenne. Donc on a beaucoup de secouristes qui sont partis très rapidement.
Est-ce que c'est fait avec des arrière-pensées? Parce que justement, la Turquie, la Syrie, on ne s'attendait pas forcément à ce que l'Occident arrive aussi rapidement. Est-ce qu'il y a des attentes
alors,
de part de l'Occident?
Donc il n'y a pas que des Européens, puisque je les cite. Il y a beaucoup de solidarité des pays voisins de la Turquie. Il y a énormément d'argent qui a été levé par des collectes privées de la part des pays du Golfe. Or, évidemment, à la fois l'aide d'urgence et ensuite la reconstruction, ça va coûter très cher. Donc, c'est vrai qu'on commence déjà à avoir ce sujet du financement qui est, qui est sous-jacent. On a aussi de l'aide qui est venue de pays avec lesquels la Turquie a des relations très compliquées, ou avait des relations très compliquées jusque récemment, comme Israël ou l'Arménie. Donc, on a vraiment une mobilisation internationale qui est extrêmement large et qui, à mon sens, montre aussi quand même le profil de puissance de la Turquie et l'idée que la Turquie est un protagoniste absolument central du jeu international. Elle montre aussi que peut-être la Turquie en position de faiblesse, elle peut compter malgré tout sur ses partenaires qui sont très nombreux, qui sont pas tous d'accord entre eux. Mais il y a aussi quelque chose d'absolument essentiel pour les Européens, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, cette région compte beaucoup de réfugiés syriens. Vous savez que la Turquie héberge probablement entre 4 et 5 millions de réfugiés syriens. Une partie d'entre eux se sont déjà partis s'installer sur le territoire de l'Union européenne, notamment en Allemagne, quand Angela Merkel leur a ouvert les portes. Et maintenant, l'Union européenne souhaite en réalité fixer ces réfugiés en Turquie ou les voir retourner en Syrie. Et là, Évidemment, les régions sinistrées ne seront pas en mesure d'accueillir tous ces gens pendant des mois, des années. On a un immense exode qui est déjà en train de se mettre en place à partir de ces régions. On a déjà quelques réfugiés syriens qui tentent de retourner en Syrie, mais l'idéal pour eux n'est pas forcément de retourner dans un pays qui est encore en guerre, où ils ne sont pas forcément les bienvenus, et donc on peut s'attendre à un nouvel afflux de réfugiés vers l'Europe.
Maintenant, avec la dizaine de jours qui vient un peu de s'écouler, on voit qu'il y a une nouvelle indignation qui se fait entendre. C'est celle qui concerne l'impréparation de l'État face au risque sismique qui existait déjà dans la région et qui était très élevé. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la réaction de la population turque justement par rapport à ça ?
On a évidemment une première colère qui est contre l'incapacité du gouvernement à faire face à la catastrophe. On a ensuite une deuxième colère qui est l'idée que les promoteurs, notamment ceux liés au gouvernement, n'ont pas respecté les normes antisismiques assez strictes qui avaient été édictées après le tremblement de terre de 18 en 99. Ça a été vraiment un trauma, ce tremblement de terre, et donc il y a eu à la fois réforme de la législation, imposition d'une taxe antisismique, création de la FAD, donc vraiment tout un dispositif qui a été mis en place pour faire face à la possibilité de nouveaux tremblements de terre.
Tout ça sous Erdogan en plus.
Absolument, tout ça sous Erdogan, et on avait quand même une procédure de justement d'audit et de révision de l'état des constructions qui était en cours dans cette région, mais qui n'était pas encore menée à terme. Et en réalité, ce type d'audit, ce type de rapport doit être mis en parallèle, doit être vu, analysé, en même temps que d'autres procédures de régularisation mises en place par l'État lui-même pour simplifier la vie de promoteurs qui ont construit illégalement. Et dans cette région, on faisait face à une pression démographique importante, puisque, comme on le dit, il y avait à la fois une migration interne de l'Est, et puis une migration de Syriens, la natalité qui est forte aussi. Donc on a vraiment une pression à la construction très forte dans cette région. Et on voit très bien, quand on regarde les photos du séisme, qu'on a des immeubles exactement dans la même zone, le même quartier, le même bloc,
qui sont
un immeuble pratiquement intact, et des immeubles dont il ne reste rien. Donc ça est une des défenses de la KP, de dire que les immeubles qui se sont écroulés ont tous été construits avant 99. Ce n'est absolument pas crédible.
La KP qui est du coup le parti du président.
Le parti au pouvoir, oui.
Et donc c'est ça qui suscite la colère de la population turque, c'est qu'en fait, de se dire que peut-être le drame n'était pas prévisible, parce que ça reste une catastrophe naturelle, mais qu'en tout cas, peut-être les dégâts auraient pu être moindres.
On aurait pu s'y préparer mieux, effectivement. Ouais. On fait souvent des comparaisons avec d'autres lieux où ont lieu de grands tremblements de terre et qui sont mieux préparés. Évidemment, si on compare au Japon, où toutes les constructions antisismiques sont faites très strictement, ou à la Californie, évidemment, ça nous dit que quand même, la Turquie était mal préparée. Moi, ce qui me frappe, c'est quand on voit ces images, on a presque l'impression de voir des tremblements de terre en Iran ou au Pakistan. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, la Turquie, qui se veut un pays moderne, qui a quand même connu un triplement du PNB par tête pendant la première décennie de la KP au pouvoir, qui est un pays dont la croissance économique repose beaucoup sur la construction précisément, en fait, a fait beaucoup de constructions pourries, il faut le dire.
Mmh. Donc justement, vous parliez des constructions illégales. Sur place, on entend parler beaucoup de corruption du coup, entre le gouvernement et des promoteurs immobiliers. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement que, très probablement, certains édiles ont accepté qu'on leur graisse la patte pour permettre la construction de bâtiments illégaux. Et puis, on a aussi qu'à chaque élection, le gouvernement fait une grande amnistie qui lui permet de récolter par ailleurs des amendes, donc d'abonder un peu les caisses de l'État et de repartir à zéro en pardonnant tous les promoteurs qui ont mal construit. Et donc évidemment, ça maintenant, ça va être l'objet du débat. Mais ce débat-là, techniquement, il peut être alimenté par les architectes, l'ordre des architectes, un certain nombre de contre-pouvoirs, finalement, de la société civile, dont on sait qu'ils ont été en très grande partie désactivés ou empêchés de s'exprimer par Tayyip Erdogan. Et c'est bien le problème. Il n'y a plus de contre-pouvoirs en Turquie, il n'y a plus de lanceurs d'alerte. On avait un sismologue qui était depuis plusieurs années sur les plateaux télé en train d'expliquer
qu'on aurait
un tremblement de terre, qui tout récemment encore disait bon, la KP va lancer un grand programme de logement social dans cette région, à Marrache, qui est l'épicentre. tremblement de terre. Alors, apparemment, une partie au moins des logements sociaux construits par la KP a mieux résisté. Ça veut dire que quand même, ce qui relevait directement du gouvernement a respecté mieux les normes antisismiques. Mmh. Le problème, c'est toute la galaxie des petits entrepreneurs qui spéculaient en fait sur l'attractivité de la Turquie avec des immeubles de luxe qui se sont effondrés vraiment en 5 minutes.
Ouais. Ça, c'est assez édifiant de voir qu'en fait, tout est une question de l'égalité, des normes parasismiques dans l'immobilier. Je lisais l'interview d'un maire.
Donc selon la ville, près d'Antioche.
Voilà, où il n'y a aucun bâtiment.
Il n'y a pas de mort.
Voilà, parce qu'en fait...
Il est tombé, pas de mort. Parce qu'il a empêché toutes les constructions illégales. Et ça, c'est un exemple très important, parce que ça montre qu'effectivement, si les politiciens en Turquie étaient un peu plus honnêtes, et un peu, voire même puritains, puisque là, effectivement, on a une application très stricte des règles, on aurait pu éviter une partie de la catastrophe.
Mais justement, tout à l'heure, on disait que toutes ces normes parasismiques, elles ont été établies et renforcées depuis, en gros, les années 2000, donc qui correspond un peu à l'arrivée de l'AKP au pouvoir. Toutes ces normes, elles ont été donc créées sous Erdogan. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Pourquoi il y a eu cette promesse, après le tremblement de terre de 1999, de dire maintenant, on va faire attention, etc. C'est aussi comme ça qu'il est arrivé au pouvoir, c'est un peu l'ironie du sort. Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant plus rien ne soit respecté?
Une partie des normes ont été respectées et pas toutes les parties. Et vous savez comme moi que partout dans le monde, le BTP, c'est le lieu où il y a le plus de corruption, peut-être, de tous les secteurs économiques. Et en Turquie, il faut savoir que la loi sur les marchés publics, par exemple, elle a été réformée, je crois, 150 fois. Le chiffre était là ce matin, depuis que l'AKP est arrivée au pouvoir. Et l'AKP a aussi mis sur place une agence du logement social qui s'appelle Toki et qui a été un acteur du paysage politique vraiment vilipendé, notamment au moment de Gezi, parce que c'est une agence qui pouvait préempter des terrains, donc confisquer en fait des terrains, exproprier des gens pour décider de construire du logement social. Donc c'est vraiment un outil politique pour Erdogan de construction de clientèle, le BTP. La particularité de ce tremblement de terre-là, c'est qu'il touche une région énorme. C'est une région qui, par ailleurs, est une région qui est plutôt acquise à l'AKP électoralement. La deuxième particularité de ce tremblement de terre, c'est qu'il touche aussi la Syrie. Donc il remet aussi en cause la diplomatie turque, en réalité. Ça peut être le début d'un retournement de situation pour l'AKP. Je pense qu'Erdogan l'a très bien compris. La question maintenant est de savoir s'il a les moyens vraiment de contrôler la situation. C'est ce qu'il dit depuis le deuxième jour, où il y a eu quelques flottements, mais maintenant la situation est sous contrôle. Effectivement, il a beaucoup d'avance. Il tient absolument tous les leviers du pouvoir en Turquie, donc c'est très compliqué de lui contester la maîtrise des événements. Je vois que là, par exemple, aujourd'hui, les responsables de l'opposition s'égosillent en disant qu'il faut que les élections aient lieu en juin, ce qui était la date initialement prévue, alors qu'Erdogan avait décidé de les avancer d'un mois. Non, il faut qu'elles aient lieu en juin.
Ouais, donc la question, c'est est-ce que ça va être maintenu ou reporté
encore? Oui, et en fait, le pouvoir maintient quand même une sorte d'incertitude sur le fait que les élections pourraient ne pas avoir lieu du tout pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il est absolument impossible d'organiser, de les organiser.
Ouais, d'accord.
Et ça, c'est évident. Et je pense que l'opposition, même si évidemment elle fait vraiment là un forcing parce qu'elle considère qu'elle a une opportunité politique, que le mécontentement fait que beaucoup de gens vont basculer dans le vote pour la plateforme de l'opposition. En réalité, on ne peut pas du tout organiser d'élections dans ces régions qui ont été touchées. Ça sera extrêmement compliqué de les organiser dans les régions aussi où les gens vont s'installer. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une migration massive qui se dessine en provenance de ces régions sinistrées vers Istanbul, Ankara peut-être pour les régions qui sont les plus à l'est. Donc ça va être extrêmement compliqué d'organiser ces élections. Donc, du strict point de vue logistique, le gouvernement a vraiment une possibilité, effectivement, de suspendre le processus, à mon avis.
Parce que là, pour l'instant, elles sont programmées pour le 14 mai, donc élection présidentielle et législative en même temps. Au niveau des sondages, comment il était avant le séisme? Comment il était placé
Alors, l'année dernière, Erdogan était passé... Enfin, l'AKP, donc le parti de Tayyip Erdogan, était passé un peu... avait perdu des points... notamment sur les législatives. On imaginait que c'était possible que le parti n'ait pas sa majorité, même en s'alliant aux ultranationalistes du MHP. La présidentielle, à mon sens, n'a jamais été vraiment difficile pour Erdogan. C'est quand même un président qui a été élu 2 fois au premier tour. Alors, on a une petite controverse juridique sur le fait qu'il ait le droit de se représenter à nouveau. Mais alors, évidemment, comme il y a sans cesse des révisions constitutionnelles en Turquie, à chaque fois, on peut dire non, on est reparti à zéro, c'est pas tout à fait pareil. Donc, j'ai à nouveau droit à 2 mandats, voilà, c'est ça, on recommence. En revanche, il était plutôt en train de monter dans les sondages depuis le début de l'année. Donc, les élections s'annonçaient bien. Il les avait avancées probablement parce qu'il considérait qu'il fallait les tenir vraiment au bon moment et que lui-même est un. C'est un très très bon, c'est vraiment un animal politique Erdogan, donc il est très très bon en campagne. Là, le problème, c'est comment on peut imaginer une campagne sur cette image de désolation complète, sachant quand même qu'on est en 2023, donc année du centenaire de la République de Turquie, qui au contraire devait être un peu l'année du triomphe finalement de l'AKP, qui a transformé la Turquie, qui en a fait un pays moderne,
oui, c'était une grosse année,
économique, là, politique, diplomatique. Et là, on a vraiment l'image du pays qui se renverse complètement.
Donc là, ce séisme, il va vraiment être un vrai enjeu dans cette campagne électorale. Comment aussi s'organise l'opposition ?
Aussi bien le maire d'Ankara que le leader du parti kémaliste se sont manifestés pour dire qu'ils envoyaient de l'aide, dénoncer l'incurie de l'État, etc. À partir du moment où ils ont effectivement contribué sur place à aider les secours, c'est quand même un petit peu compliqué de leur reprocher.
Alors, non, mais comment la population turque, elle, l'accueille ?
La population turque, elle voit évidemment qu'on est en campagne politique, sauf que elle a peut-être aussi envie d'une alternance. Mmh. Donc c'est un peu le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas tellement de possibilités alternatives au pouvoir de l'AKP, au pouvoir tout-puissant de l'AKP, allié aux nationalistes. Donc là, on avait une plateforme de l'opposition qui rassemble 6 partis, qui est un peu l'alliance de la carpe et du lapin, qui a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur un programme, qui devait annoncer son candidat à la présidentielle lundi dernier, qu'il n'a pas fait. Donc il y a une opportunité pour l'opposition, elle a énormément de mal à en tirer parti, à mon avis. Là, effectivement, le patron du parti kémaliste, Kemal Kılıçdaroğlu, est parti vraiment en campagne un peu tout seul. On n'a pas l'impression que ce soit tellement concerté entre eux. Mais je ne suis pas sûre que pour le moment, ceci soit plus choquant pour la population que l'incurie avérée de la FAD, de l'agence gouvernementale, dont on a aussi vu que le vice-président était quelqu'un qui venait de la direction des affaires religieuses, qui avait été nommé sur des critères purement clientélistes par Erdogan. Donc vraiment des très proches du pouvoir, qui n'étaient absolument pas qualifiés pour ce métier et qui, de ce fait, sont complètement perdus face à la catastrophe.
Oui, oui, il y a des gros conflits d'intérêts au sein même des organisations qui sont censées venir en aide aux victimes.
Absolument.
Donc, est-ce que finalement tout est perdu pour Erdogan aux prochaines élections ? C'est pas forcément sûr, vu que l'opposition a du mal aussi à s'organiser.
Première question, quand les élections vont-elles avoir lieu ? En principe, la constitution turque permet, en cas de guerre, de repousser les élections d'un an. Oui. On ne sait pas si cette situation pourrait être juridiquement assimilable à une situation de guerre. L'état d'urgence a été décrété dans les provinces, pas l'état de catastrophe naturelle. Ouais. Donc on est vraiment déjà dans une sorte de glissement sémantique juridique qui peut permettre à l'AKP de repousser les élections. Si les élections ont lieu, à mon sens, qu'elles aient lieu le 14 mai ou le 18 juin, ce sera dans une... Ce sera un pataquès absolu, ce sera une gabegie totale. L'opposition pourra également protester contre les conditions dans lesquelles se sont tenues les élections. On ne peut pas mettre à jour les registres d'état civil à l'heure actuelle. Et il faudra des mois et des mois pour qu'on sache qui est vivant, qui est mort dans cette province. Donc qui va voter ? Ensuite, est-ce que ceci est une tâche sur le bilan d'Erdogan ? Certainement. Est-ce que ça change tout ? Peut-être pas.
Et parmi les points positifs que Erdogan peut mettre peut-être dans son bilan sur tous ses derniers mandats, et pour terminer avec un volet un peu plus géopolitique, il y a aussi le rôle de médiateur que joue le président Erdogan dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis donc maintenant un an. Est-ce que ça peut être la dernière carte qu'il peut jouer lors des élections ?
Ce qui est très intéressant dans la position que la Turquie a prise sur la crise russo-ukrainienne, c'est qu'effectivement, elle a décidé de rester neutre. Neutralité active, puisqu'elle est à la fois proche de Poutine, proche de Zelensky. Voilà. Donc on est un pays qui vraiment se situe plutôt à la charnière du conflit, qui a reçu aussi beaucoup de Russes ou d'Ukrainiens en fuite de leur pays, qui n'applique pas les sanctions, qui donc bénéficie économiquement en réalité de l'isolement de la Russie, qui blanchit en partie les opérations extérieures économiques de la Russie. Donc ça, c'était une situation limite dont Erdogan avait réussi à tirer parti de manière très astucieuse. Maintenant, est-ce que cette catastrophe naturelle, économique et politique qu'est ce séisme ne va pas dégrader en partie le statut de puissance de la Turquie, parce qu'il va falloir qu'elle se concentre énormément sur sa reconstruction intérieure. Il y a trop de colère, il y a trop de difficultés intérieures pour que la diplomatie turque puisse se permettre d'être à nouveau extrêmement flamboyante, expansive, etc. Bon, mais on le saura assez rapidement, puisqu'il y a un grand forum diplomatique qui aura lieu début mars, qui est le forum d'Antalya, qui a lieu maintenant tous les ans. Et je suis assez curieuse de voir Sur quel sujet aujourd'hui la Turquie peut apparaître en première ligne dans les affaires du monde?
Ben seni sevdim, da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim, da dünyalara bildirdim. Enderdun kaşlarını, babanı, babanı mi yıldırdım? Enderdun kaşlarını, endurdun kaşlarını, babani, babani mi yıldırdım? Dereye, dereye, oy al dereden taşları. Geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçları. Geçti bizden sevdaluk, geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçları. Yaz geldi, bahar geldi, ay açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, doysun kara, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım, doysun kara, doysun kara, doysun kara, doysun kara topraklar.
Alors on dissertait pendant le son sur les conclusions qu'on pouvait sortir. La première conclusion qui est importante effectivement, c'est cette question des élections. Alors dans tous les cas, hein, le pouvoir turc est pris au piège, parce que s'il les organise, ça peut être un grand moment de fraude. hein, un moyen de. Dans tous les cas, il y aura une contestation qui sera faite par ces urnes ou de ces urnes. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit la chercheuse, ça paraît matériellement très difficile d'organiser ces élections. Et puis d'autre part, si elles sont organisées, elles seront soit le lieu d'une contestation et d'expression de la colère, ou alors. Si les résultats ne sont pas assez équilibrés, il y aura bien évidemment une contestation de ces résultats. Deuxième point qui semblait faire débat entre nous, c'était cette question de la puissance turque dans la région et d'une manière au niveau international. Alors la question de la place de la Turquie à l'intérieur des affrontements actuellement en cours entre les différents impérialismes, hein, que ce soit l'impérialisme russe ou l'impérialisme américain qui met sous sa botte l'Europe à l'intérieur du conflit ukrainien, bon, nous apparaissait un petit peu en dehors du questionnement. Ce qu'on mettait plus en avant, c'était le fait que la démonstration de la capacité de l'État turc à prendre en charge cette question de du séisme avait donné lieu à des formes de solidarité et à des témoignages de solidarité de la part de pays dont on s'attendait assez peu en général par rapport à la Turquie. Alors cette chanson là qu'on vient d'entendre, elle a été diffusée sur les ondes de la télévision publique athénienne. Dans les quelques jours qu'ont suivi la catastrophe en Turquie, c'est une chanson turque qui s'appelle « Écris-moi ». Et puis il y a eu des prises de position et des prises de parole aussi allant jusque à l'État arménien qui a proposé de normaliser ses relations diplomatiques et d'ouvrir la frontière pour permettre à ceux qui le souhaitaient ou qui pouvaient devenir se reposer, se soulager, s'installer en tous les cas long de la frontière arménienne. Alors là, pour le coup, la fanfaronnade d'Erdogan et sa volonté de pleine puissance sur le bassin et vis-à-vis des puissances ou des autres pays, sa volonté d'apparaître comme le commandeur des croyants et de faire ressurgir cette question du sultanat habituel et traditionnel dans la tradition ottomane, on a pris un sérieux coup, puisque même les Arméniens, qui sont, on le sait évidemment, les victimes habituelles des desiderata turcs, là on fait preuve de solidarité, ça en met quand même un sérieux coup à l'image d'Erdogan, et ce que quelque part la statue Erdogan va se fêler. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas seulement être des élections qui vont permettre de faire bouger. La question économique, tu le disais, Denis,
ouais, c'est primordiale. Déterminant. Il y a une inflation qui est terrible. Hein. Je crois que c'est... nous, on se plaint d'avoir 10% en France. Là-bas, c'est depuis bon, près de plus d'un an. Ouais. C'est 80% hein, d'inflation. C'est énorme. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il y a la population... Turc a du mal à survivre de ce truc-là. Alors bon, on va voir. Hein, d'habitude, c'est pas les trucs internationaux qui font que tel ou tel dictateur, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut d'Erdogan, c'est quand même un bon dictateur. Hein, c'est quelqu'un qui a été
20 ans au pouvoir.
20 ans au pouvoir et qui a muselé toute son opposition, l'a foutu en tôle. Et je parle pas des Kurdes, hein, je parle d'autres. D'autres personnages politiciens.
On pense notamment à Osman Kavala.
C'est ça. Des toute avocats, la société civile.
Des journalistes.
Toute la société civile, les journalistes, etc. On a pris un sacré coup. Donc, c'est effectivement, c'est un dictateur. Alors, le dictateur va-t-il s'écrouler? Ça m'étonnerait. C'est un politicien comme c'est dit dans le reportage, c'est un politicien vraiment de haut vol. C'est quelqu'un qui va, de toute façon, à mon avis, va reporter les élections. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est pas cette histoire qui s'est passée là, c'est pas du ça va être pour Erdogan, ça va être son argument, c'est comme une guerre. Donc il va pouvoir reporter les élections de plusieurs mois, c'est évident.
Alors oui, certainement faire montre de l'union nationale, jouer la carte de l'union nationale.
Et puis la religion,
la catastrophe,
puis
la religion.
Ah, c'est terrible.
Mais on voit là pour le coup la nation turque, qu'est-ce que ça signifie?
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et réellement, matériellement? On le voit pour les Turcs, ben, ça veut plus dire grand-chose, parce que quand il y a des catastrophes, il n'y a pas de nation. Justement, alors d'un côté, les nationalistes de l'extrême droite du MHP risquent de sursoir là-dessus, et de l'autre, la plateforme dite de gauche qui va des centristes au HDP, va certainement dire que bah, la nation turque, elle est évoquée que quand elle sert à Erdogan et à l'AKP, mais on va dire pour le pire, mais pour le meilleur, pour la solidarité nationale, et ben là il y a pas grand chose quoi. On le voit, il y a pas d'État, il y a pas de nation, et que finalement l'État et la nation, ça sert surtout à réprimer et à servir les intérêts de ceux qui sont déjà en place quoi. Bon voilà, hein, il y aurait vraiment des tonnes de choses à dire. Il faudrait un jour qu'on s'attelle à vous expliquer pourquoi on passe autant de temps sur la Turquie, déjà parce qu'on a de nombreux camarades turcs et kurdes qu'on a croisés au cours de nos luttes, donc c'est toujours intéressant pour nous d'essayer de comprendre les raisons de leurs engagements et d'être à leur côté par rapport à la solidarité, à ce qu'ils font, mais aussi parce que la Turquie, en tant que puissance impérialiste et puissance pivot du Moyen-Orient, hein, rappelons que la Turquie est la deuxième armée de l'OTAN.
Ouais.
La Turquie est un pays, une zone qui a été le lieu d'enjeux géopolitiques majeurs au cours du XXe siècle, mais aussi au cours de la longue histoire du Proche-Orient. Et il est évidemment, on ne peut pas comprendre la situation au Proche-Orient et on ne peut pas comprendre la situation internationale si on ne prend pas en compte ce que la Turquie représente, quel est son rôle et comment cette société turque s'organise et quelles sont les formes que prennent l'État et la société turque dans son général. Mais alors tout ça, ça nous emmène très loin de notre deuxième sujet, qui est, alors nous sommes lundi 6... Hein,
et alors, demain c'est le 7.
Ouais, demain c'est le 7. La France est à la veille d'une grève de masse. Attention. Bah alors du coup, quand vous écouterez cette émission à Toulouse ou à Montpellier, vous ricanerez peut-être en voyant les résultats.
Pas forcément.
C'est pas sûr.
Le truc que je voudrais quand même te poser comme question.
Oui, monsieur.
Il y a les gens qui se posent la question, quelle est la différence entre une grève reconductible et une grève générale?
Ah. Alors, vaste débat. Alors, une grève reconductible, c'est une grève dont le préavis est ouvert et qui possiblement se prolonge tant que les personnes qui désirent poursuivre cette grève
en prennent la décision.
En tous les cas, donc, normalement.
D'où les AG le matin. Voilà, dans les différents secteurs.
Une grève générale. Alors la grève générale, c'est un mythe,
voilà.
Du mouvement ouvrier qui a été dès le début de ce mouvement ouvrier constitutif de son répertoire, non pas d'action, mais en tous les cas de son répertoire idéologique. C'est-à-dire que lors de l'apogée de la CGT, de la Confédération Générale du Travail en 1905, et de la rédaction de sa charte, de son mode de fonctionnement, la charte d'Amiens, en 1905, ce sont principalement des syndicalistes révolutionnaires et des anarcho-syndicalistes qui sont à la tête de la CGT. C'est pas Martinez, hein, c'est d'autres personnes comme Émile Pouget, Victor Griffuel, etc., qui prônent contre, ou en tous les cas à côté de la tradition du mouvement anarchiste qui à l'époque était la propagande par le fait, c'est-à-dire l'action individuelle qui devait généraliser, réveiller et augmenter la guerre sociale, la prise de conscience. Ils proposent une action collective, c'est-à-dire la grève générale, c'est-à-dire le fait que la majorité des travailleurs du pays et de la société s'arrêtent pour 2, 3, 4, 5 jours, enfin en taux de temps qu'il le faudrait, pour pouvoir justement faire plier à la fois l'État et préparer la révolution sociale. Et à l'époque, cette grève générale, elle va en contradiction, en tous les cas elle s'oppose à la démarche des partis politiques socialistes. À l'époque c'est la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, ou le Parti socialiste français, qui sont incarnés par Jules Guesde et par Jean Jaurès, qui proposent, eux, la conquête des outils de la République et le parlementarisme pour grimper, créer, grignoter au fur et à mesure l'appareil d'État et passer ainsi au socialisme, en tous les cas à la fin du capitalisme, par cette graduation et par cette conquête de l'État. Cette chose-là, cette thématique-là, elle va prendre un autre biais, notamment en Allemagne, où à l'époque le Parti socialiste allemand, le SPD, Socialiste Partei Démocrate Deutschland allemand, qui est la plus grosse organisation ouvrière en Europe, va, selon un de ses théoriciens et un de ses dirigeants, Bernstein, proposer, lui, d'abandonner la lutte, de construire une contre-société à travers les institutions du parti, ses institutions culturelles, mais aussi les syndicats, et de justement gagner ce pouvoir, puisque les travailleurs étant les plus nombreux dans la société, ils seront un jour ou un autre majoritaires dans les urnes. C'est à ce moment-là qu'on va parler de réformisme. Attention, quand on parle de réformisme à ce moment-là, c'est contre la voie révolutionnaire, c'est à côté de la voie révolutionnaire. On est normalement à la fin, au passage au socialisme et à l'abandon du capitalisme. À l'époque, même le Parti radical, hein, jusqu'en 1936, est pour l'abandon du salariat. Hein. Donc le réformisme, c'est un courant du mouvement ouvrier qui s'oppose à l'action révolutionnaire violente à côté et qui propose la conquête des institutions. Et à ce sujet, il est très intéressant de lire une petite brochure qui avait été écrite par Rosa Luxembourg en 1906, qui s'appelle « Grève de masse, partis et syndicats », et qui justement va essayer, à partir de la révolution de 1905 en Russie, de comprendre et de proposer une stratégie justement pour cette grève de masse. Et elle en tire quelques points, je pense qu'ils sont intéressants à poser pour la situation qu'on a. Premier point, les directions syndicales sont un obstacle à la grève de masse. Et oui, en effet, Luxembourg opère une distinction, une différence entre une grève de démonstration et une grève de lutte. Et cette distinction, elle est particulièrement éclairante pour situer les enjeux actuels. Que l'intersyndicale et Laurent Berger soient eux-mêmes contraints d'appeler à une journée morte, hein, une France à l'arrêt, parle de la situation telle qu'elle est, parle en soi de la situation. Ça fait directement écho à la colère et à la détermination qui existe à la base dans de nombreux secteurs. L'intersyndicale ne peut pas l'ignorer, cette colère, cette demande de la part de la base. Pour autant, il serait faux d'interpréter cet appel à une journée morte comme un changement stratégique de l'intersyndicale. Cette dernière appelle certes à monter d'un cran, à hausser le ton, comme ils disent, mais la journée du 7 reste entièrement subordonnée à la stratégie qui est explicitement la sienne, à l'intersyndicale, depuis le début du mouvement. Faire pression sur le Parlement, Laurent Berger le dit tout à fait clairement, il y a un débat au Sénat dans lequel l'intersyndicale a décidé d'être entièrement présente. Et c'est notamment les raisons de la mobilisation du 7 mars. Il l'a même répété, parce que le moment où le texte sera au Sénat, le 7 mars, on fera à nouveau une démonstration. On calque le calendrier des mobilisations sur le calendrier parlementaire. Ne fait donc pas de doute que l'intersyndicale prépare une grève de démonstration pour la journée du 7. Comme l'a rappelé enfin Laurent Berger, elle pèsera de tout son poids pour que cette journée ne déborde pas du cadre qu'elle a défini elle. Donc la stratégie de l'intersyndicale donc, doit être forcément dénoncée, critiquée, non seulement en propos, mais aussi et surtout en acte. Parce que la grève de masse, c'est une grève politique. Ça, c'est le deuxième point de Rosa Luxembourg. C'est très important parce que militer pour que la grève devienne une grève de masse politique, c'est refuser de reconduire une conception de la politique qui soit décalée à l'Assemblée, faite par d'autres, mais qui réintègre la politique dans nos armes, dans notre quotidien, et qui fait que on décale, on décentre le pouvoir vers nous, et qui fait que la bataille devient forcément politique. Ce n'est pas une bataille de gens qui vont parler à notre place. Donc cette grève, justement, qui deviendrait politique, elle peut tout à fait se calquer, notamment avec la journée du 8 mars. On pourrait avoir un rebond, une amplification, par rapport justement à la réforme des retraites qui est impitoyable vis-à-vis des femmes, on l'a démontré en long et large en travers, l'exigence d'une régularisation collective de tous les travailleurs sans papier aussi, par exemple, avec cette question du projet de loi immigration qui va arriver. Donc cette stratégie qui est opposée à l'intersyndicale, elle permettrait de faire entrer plus largement tout le monde dans le mouvement, pas seulement ceux qui sont protégés, elle permettrait de politiser et de voir que tout le monde pourrait s'approprier ce mouvement. Parce que la grève de masse, c'est le troisième point de Rosa Luxembourg, elle met en mouvement toutes les couches du prolétariat, tous les secteurs du prolétariat et tous les secteurs du travail. il faut comprendre que la question de la grève, elle rencontre une sympathie de la part de tout le monde dans la société, dans le pays en ce moment, mais elle concerne pas tout le monde parce que la plupart des gens estiment qu'ils peuvent pas le faire ou ils n'ont pas intérêt à le faire ou ils voient pas à quoi ça peut servir. Si on s'approprie, comme j'ai essayé de le dire assez maladroitement, les deux premiers points, alors on a des raisons de s'engager dans la grève. Parce que cette grève, elle devient non seulement un moyen de s'opposer à la réforme des retraites, mais elle devient aussi le moyen de s'approprier quelque chose qui fait qu'on peut mettre plein de trucs dedans. L'inflation, la vie chère, le quotidien, etc., etc. C'est donc à ce moment-là que beaucoup plus de gens qui sont pas concernés par cette grève, par le fait de voir que leur action ne peut pas mettre la France à l'arrêt ou transformer une journée morte, c'est le cas dans mon secteur, hein, la viticulture, on voit pas très bien ce qu'on pourrait faire pour gêner le gouvernement, mais par contre, si on se retrouve à manifester par boîte, on va dire corps de métier, là, on va pouvoir se poser des questions, on va pouvoir faire en sorte d'apporter ce qu'on a envie d'apporter dans les assemblées générales, de poser la question dans les assemblées générales, et en tous les cas, de faire que cette grève, elle se massifie et elle devienne effectivement une grève, si ce n'est générale, en tous les cas, une grève de masse. Alors, ça va pas être pour demain.
Je pense, oui.
Ça paraît évident. Mais, en tous les cas, on peut peut-être commencer à voir des prémices de ça demain. C'est-à-dire, combien il y a de personnes qui vont défiler? Combien il y a de personnes qui vont faire grève? Combien il y a de personnes qui vont reconduire? De quoi on va parler le soir à table, à la bouffe? De quoi on va parler le lendemain, au boulot, quand on va revenir? Ah, t'as vu, il y avait du monde, j'y serais bien allé, mais j'ai pas pu, etc. Comment est-ce qu'on va réussir à imposer des prises de parole? Est-ce que les contacts qu'on a commencé à avoir ensemble, des discussions informelles par-ci, par-là, vont se transformer en quelque chose de plus tangible, du latin tangere, qu'on peut toucher? Est-ce que des gens qui n'ont pas de rapport, par exemple des gilets jaunes, des syndicalistes, des jeunes, des lycéens, des étudiants, vont commencer à sortir de leur couloir pour voir s'ils pourraient pas faire quelque chose ensemble? Est-ce qu'il va y avoir des blocages? Comment ces blocages ils vont être ressentis à la fois par ceux qui participent, mais par ceux qui les subissent, entre guillemets? C'est-à-dire, en gros, les automobilistes qui vont bosser. Est-ce qu'ils vont mal le prendre? Est-ce qu'ils vont dire « Ah ben moi j'aurais bien aimé mais je peux pas » Ou est-ce que c'est des blocages qui vont avoir lieu dans différents secteurs de travail en lutte? Exemple, la SNCF ou les raffineries vont rencontrer une ouverture de la part de ces travailleurs en grève. Est-ce qu'il va y avoir des échanges? Est-ce que des gens qui vont être en grève vont aller voir d'autres grévistes pour pouvoir discuter, se mélanger et participer au blocage? Bref, tous ces éléments-là, ça sera des indicateurs qu'on pourra utiliser pour comprendre si on est véritablement enfin, en vrai, en train de commencer enfin ce putain de mouvement social contre les retraites qui fait qu'on a tous envie d'y aller, mais malheureusement on est tous pour le moment raccordés encore à notre fichu élastique du calendrier de l'intersyndicale et qui fait qu'on se sent totalement dépossédé et que pour le moment ça se résume à des balades. Alors bon, on n'a pas grand-chose à perdre, hein, on a quelque chose à gagner, en tous les cas le fait de ne pas se faire chier au cours de ces prochaines semaines, et aussi, quelque part, de voir ces fichus sénateurs, qui sont quand même la contradiction absolue de la démocratie, puisque ces anges sont issus au suffrage indirect, venir nous raconter qu'il faut faire des efforts, parce que sinon, notre système de retraite, eh ben, il va partir à volo. Évidemment, eux n'en feront pas, puisque le système de retraite des sénateurs ne sera pas touché par cette réforme. Donc, rendez-vous demain dans la rue pour les auditeurs. Vous pourrez venir nous poser des questions sur tout ce qu'on vous a raconté. Et on espère qu'on aura plein de trucs à vous dire la semaine prochaine. Ça peut être à la fois quelque chose de très dur,
mais d'être très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canastille, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site.